Donc,
oui, une petite présentation.
Bonsoir à tout le monde et l'auditeur nombreux. Bon, on savait bien que la date n'était pas évidente au cœur des au mois de décembre, mais encore une fois, je vous rappelle le pourquoi de cette réunion. C'est parce qu'il y a eu un congrès francophone international de transplantation rénale qui s'est tenu la semaine dernière à La Rochelle et que nous nous étions engagés à faire en marge de ce congrès une conférence grand public sur les avancées actuelles en transplantation et en transplantation rénale notamment. Donc je suis ravi d'accueillir pour cette conférence ce soir Benoît Barou, qui est professeur d'urologie à la Pitié-Salpêtrière, ancien président de la Société francophone de transplantation. Et Benoît nous parlera de chirurgie un petit peu et d'immunologie. Très bien. Ça, c'est pour les invités extérieurs. Et au niveau invité local, vous avez Thierry Ouette, qui est bien connu du milieu de la transplantation poitevine, responsable d'une unité de recherche, INSERM, qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion. Il nous en reparlera peut-être. Et puis, nous avons Nathalie Chergé, qui est notre infirmière coordinatrice, que certains connaissent ici, dans le service, et qui nous parlera de ce qui s'est dit en marge de ce congrès, enfin, pas en marge, mais qui s'est dit au sein de ce congrès, dans une session spécifique pour les paramédicaux. Voilà. Et puis je terminerai sur, pour ma part, sur ce qu'il s'est dit concernant greffe et sujet âgé, puisque nous avons consacré une session entière au sujet greffe et sujet âgé. Voilà. Donc je passe tout de suite la parole à Thierry Ouette pour un petit quoi de neuf en biologie sur la conservation d'organes.
Bon, bonjour, bonsoir. Merci Antoine pour cette présentation, effectivement. Alors, moi, je m'occupe d'une unité à Poitiers qui est vraiment dédiée à la conservation des organes. La conservation des organes, c'est un temps qui est extrêmement important, qui se situe en fait entre le moment où on prélève les organes chez le donneur, voire même d'ailleurs une période qui est un peu antérieure. C'est-à-dire, vous savez qu'un donneur en transplantation, c'est un passage en mort encéphalique, donc c'est souvent une destruction du cerveau assez irrémédiable qui entraîne que ce patient devient éligible comme donneur et va donner ses organes. Donc cette situation va suivre derrière une période de réanimation pour maintenir ce donneur jusqu'au moment où les chirurgiens vont venir prélever les organes pour ensuite les amener chez le receveur. On a la possibilité d'être un donneur vivant également, mais ça c'est une situation qui est un petit peu plus à la marge, qui est assez intéressante d'un point de vue conservation, puisque là on est sur quelque chose d'assez optimal, ce qui veut dire que finalement la durée d'ischémie-reperfusion, de conservation, ce mot d'ischémie-reperfusion qu'on utilise, est quelque chose d'essentiel puisque les résultats sont nettement meilleurs. Alors ce schéma qui est en fait assez compliqué, on va le simplifier au maximum. Cette période d'ischémie, c'est la période finalement où on déconnecte les organes du receveur, où on va les préparer pour la conservation et les emmener au niveau du receveur. La reperfusion, c'est le moment où on est chez le receveur et où finalement cet organe va être soumis à une reperfusion. Donc le sang du receveur va venir vasculariser cet organe et finalement amener à ce niveau-là une réoxygénation, un réchauffement. La conservation, elle se fait sur un principe très simple qui est la température du frigidaire, puisque c'est autour de 4 à 6 degrés, et c'est quelque chose qui est totalement en fait empirique et que l'on a accepté depuis un certain moment. Et la reperfusion va donc correspondre à un réchauffement, ce qui veut dire que ces deux périodes se suivent, on va refroidir les organes chez le donneur et les conserver, puis ensuite les réchauffer chez le receveur. Et tout ça finalement, c'est une situation très particulière, puisqu'à un moment, on ne va plus avoir d'oxygène, on ne va plus avoir de sang, on ne va plus avoir tout ce qu'il y a dans notre sang et qui nourrit nos tissus. Les cellules, bien entendu, ne vont pas accepter ça, elles ne sont pas faites pour ça, et elles vont se mettre dans une situation qu'on appelle finalement l'ischémie, à une température qui est celle de 4 degrés, mais plus d'oxygène, plus de nutriments, plus rien n'arrive. Et ces cellules doivent s'habituer. C'est une situation de stress qu'on leur impose. C'est-à-dire qu'on modifie complètement leur espace de vie habituel. Donc, il va falloir qu'elles se défendent. Et pour se défendre, elles mettent en place un certain nombre de phénomènes biochimiques. Ces phénomènes biochimiques vont être valides à un certain moment, mais si la conservation se prolonge, ces cellules vont finir par s'altérer et mourir. La reperfusion, vous allez me dire, c'est super. C'est le moment où c'est à nouveau du sang qui arrive, de l'oxygène, des nutriments. Oui, mais elle accompagne une période de modification profonde de la cellule. Cette cellule a perdu ses repères, finalement. Elle était un peu dans l'obscurité de l'ischémie, et finalement, la lumière de la reperfusion chez elle se traduit par quelque chose qu'elle ne sait plus finalement reconnaître correctement et pour lequel elle ne sait pas vraiment s'adapter. Et cette situation-là, eh bien, entraîne des lésions supplémentaires qui vont se rajouter. Et pour le rein, où on a quand même un certain nombre de moyens de dialyse, de maintenir ses patients et de pouvoir justement lutter contre un rein qui ne marche pas, eh bien, pour le rein, cela a un certain nombre de résultats. Ça peut être un retard de fonction, peut-être même totalement une absence de fonction dans certains cas, ou voir alors ces lésions finalement qu'on a mis en place qui vont entraîner un petit peu plus tard eh bien, des lésions plus chroniques et finalement des lésions qui vont durer sur le temps et finir par altérer ce rein. Donc l'ischémie reperfusion, vue par un biochimiste, vue par l'aspect fondamental, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin mais qui est vraiment source de lésions. Qu'est-ce que l'on a pour lutter contre ça aujourd'hui? On a des solutions de conservation. Les phénomènes, je dirais, contemporains de l'ischémie reperfusion doivent normalement être contrecarrés par ces solutions. Or, d'un point de vue purement chimique, on a relativement peu, finalement, de facteurs tout à fait capables de lutter contre les différents processus dont je viens de vous parler. Cependant, aujourd'hui, quelques nouveautés qui commencent un petit peu à dater, mais des solutions, finalement, de nouvelle génération qui comportent des composés particuliers qui vont être introduits dans ces solutions et qui vont avoir un effet pendant la conservation de protection de ces organes, notamment amplifiés au moment de la reperfusion. Mais ces solutions restent finalement assez basiques. C'est de l'eau, c'est du sel, c'est un certain nombre d'éléments, mais on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui que cela correspond réellement à la situation, à une situation tout à fait optimisée en clinique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les machines de perfusion. Aujourd'hui, elles prennent de l'importance. Pourquoi elles prennent de l'importance? Eh bien, parce que les donneurs ont changé. Les donneurs sont devenus beaucoup plus vieux, sont devenus beaucoup plus porteurs de pathologies. Donc, ils ont des lésions au niveau de leurs organes, notamment pour le rein. Et ces donneurs, effectivement, sont des donneurs que l'on appelle marginaux, ou donneurs limites, et qui vont développer, et ont développé déjà des lésions, parce qu'ils sont effectivement soit plus âgés, supérieurs à 60, 65 ans, ou soit porteurs déjà d'un passé d'hypertension, d'un facteur comme on appelle de comorbidité qui ont déjà un peu lésé ces organes. Ce qui fait que ces machines qui avaient été un peu rangées au placard, on ne les utilisait plus vraiment parce que finalement les solutions de conservation jusqu'à un certain moment semblaient tout à fait satisfaire et convenir, donc on ne se posait pas vraiment de questions, mais l'évolution a fait que ces machines se sont à nouveau imposées dans le paysage de la conservation. Donc ce sont des machines qui ont des pompes, en fait, avec une solution de conservation, pas tout à fait les mêmes que je vous ai présentées, qui sont dans un réservoir. Tout ça est maintenu à 4 degrés. Et on perfuse, là, ici, le rein, pour ensuite l'amener chez le receveur et donc retransplanter ses organes. Alors, ce processus, finalement, de la conservation, comme je vous disais, ça part du donneur. C'est la période où on a retiré les organes et la période où on va les remettre chez le receveur. Et finalement, c'est tout un certain nombre d'événements sur lesquels on pourrait agir. Et en particulier, finalement, cette période de conservation, aussi bien en statique que dans la machine, pourrait tout à fait être intéressante, effectivement, pour pouvoir protéger ces organes, maintenir finalement leur état de conservation et les rendre de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, quand on veut innover finalement dans l'ischémie reperfusion, soit on travaille chez le donneur, on commence à avoir un élargissement des lois éthiques qui sont aujourd'hui plus tolérantes, sans être pour autant complètement délirantes, qui permettent finalement de préparer ce donneur qui est, je vous le rappelle, décédé et qui, pour lequel on peut finalement faire un certain nombre de, je dirais, de conditionnement, de préparation de ses organes, ce qui peut quand même être intéressant pour les protéger. La conservation est un moment extrêmement privilégié puisque là, l'organe est déconnecté et on peut agir effectivement à ce niveau-là. Et le receveur est aussi un moment où on peut là agir, mais c'est là aussi quelque chose d'un petit peu plus difficile. On est sur une phase d'utilisation finalement systémique de ces produits, donc au niveau de ce donneur. Alors, où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Alors, un certain nombre d'innovations sont apparues. Nous avons ici une molécule qui est intéressante. C'est la molécule du ver marin. Ce ver marin qu'on trouve sur les plages bretonnes, effectivement, qui peut vivre entre 4 et 20 degrés, et également aussi au niveau de température normotherme, donc jusqu'à 37. Donc c'est une hémoglobine qui n'est pas dans le globule rouge, qui n'est pas dans une cellule, c'est une hémoglobine qui se balade, et qu'on nous avons testé, en tout cas, nous, dans cette période de conservation, aussi bien dans une solution de conservation ou avec une machine de perfusion. Ce qui a été intéressant, de façon très synthétique, c'est que finalement, on a pu constater qu'en utilisant cette molécule, eh bien, on a amélioré de façon significative la reprise de fonction. Vous voyez ici la créatinine pour le rein, c'est un témoin qui permet de dire, si elle est très élevée, que le rein ne marche pas bien, qu'il n'épure pas bien ce déchet dont il a absolument besoin de se débarrasser, et que finalement, eh bien, quand on utilise cette hémoglobine à une concentration qui est de 2 grammes dans une solution de conservation, ces reins reprennent beaucoup plus rapidement et sont plus efficaces. Au niveau de la machine de perfusion, on a aussi constaté une baisse significative, effectivement, quand on regarde le niveau de récupération et la rapidité de récupération de ces organes. Donc là, de la technologie, des produits nouveaux. Aujourd'hui, c'est toujours produit à partir du ver marin. Il y a un travail qui est fait actuellement pour essayer d'obtenir un produit synthétique, mais ça a déjà été utilisé chez le patient, dans une période en fait de safety, ce qu'on appelle l'utilisation, j'allais dire, de façon sécurisée chez le patient. Aujourd'hui, on va passer dans une étape d'essai chez les patients pour voir effectivement ce qui se passe. L'intérêt aussi avec cette molécule, c'est qu'on a une efficacité également très importante pour l'apparition de lésions qui sont des éléments de fibrose qui traduisent donc à ce niveau-là une perte de tissu fonctionnel. C'est comme une cicatrice. Vous avez à ce niveau-là des cicatrices, on les voit ici. Eh bien, ces cicatrices, effectivement, traduisent une perte de rein fonctionnel. Eh bien, avec cette hémoglobine, on obtient une nette amélioration, effectivement, de cet effet. La machine de perfusion, on a regardé aussi ce qui se passait avec de l'oxygène. Là, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Quand on utilise cette machine de perfusion, d'abord, on améliore la reprise de fonction. Et lorsqu'on ajoute de l'oxygène, eh bien, là aussi, on obtient, effectivement, une meilleure reprise de fonction et on améliore donc significativement cette reprise de fonction. Et là aussi, on a le même effet sur le développement de ces cicatrices dont je vous ai parlé. Donc ces machines de perfusion, c'est bien. Si on ajoute de l'oxygène, on peut aussi avoir là encore une amélioration de fonction. Le mécanisme d'action de la machine, c'était intéressant de travailler dessus. Au laboratoire, on s'en est occupé. Je passe rapidement sur ces dessins qui ne vont pas vous intéresser beaucoup, mais simplement, on a trouvé un mécanisme intime au niveau, effectivement, d'une molécule importante dans la circulation, dans l'hémodynamique, qui est une molécule qui joue effectivement un rôle sur la vasodilatation, sur l'hémodynamique au niveau du rein. Eh bien, on a là une action très spécifique de cette machine de perfusion. Là aussi, c'est quelque chose d'innovant. On sait maintenant pourquoi ça marche et surtout comment ça marche. D'autres choses sont en train de se mettre en place pour les autres organes. Tout le monde en profite finalement. Donc le rein a ses machines, le foie aussi a ses machines. On peut voir ici une perfusion au sang. Ça, c'est un groupe britannique qui travaille là-dessus. Donc on est en train de partir vers des choses assez compliquées finalement, mais qui le justifie justement par rapport au souhait d'améliorer la qualité de la conservation et surtout de pouvoir élargir le pool de ces donneurs. Le choix de prendre des donneurs plus âgés, c'est élargir le pool de ces donneurs et pouvoir fournir effectivement plus d'organes à des gens qui sont en attente. Et aujourd'hui, on a à peu près bientôt 14 000 patients sur une liste d'attente et on a à peu près 3 601 qui sont greffés. Donc on greffe aujourd'hui à peu près un patient sur quatre sur une liste d'attente, ce qui veut dire qu'on est quand même assez loin du compte et on a besoin d'aller chercher ces donneurs marginaux. Et pour ça, on est obligé effectivement d'utiliser des techniques qui sont beaucoup plus élaborées qu'elles ne l'étaient avant. Donc les machines de perfusion, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va finalement peut-être pouvoir apporter une réponse. Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui se fait très simplement quand même. Il faut les perfuser au sang et c'est assez logique. Puisque je vous ai dit que pour faire fonctionner un organe correctement, il fallait effectivement du sang. Et quand qu'on arrêtait cet apport de sang, eh bien on était dans une situation d'ischémie. Donc là, on essaye de reproduire finalement la physiologie durant la conservation pour conserver ces organes. Que va-t-il encore arriver par la suite? Eh bien, on va pouvoir utiliser un certain nombre de produits, pour l'instant, qui sont encore en cours d'évaluation, qui sont des anticoagulants. Eh bien, ces anticoagulants vont avoir un intérêt parce qu'ils vont pouvoir agir sur la formation de caillots au niveau de ces tissus, sur la formation d'un certain nombre de produits indésirables et permettre finalement une meilleure circulation, une meilleure revascularisation. On a là un certain nombre de molécules qui ont été testées au laboratoire. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Et toujours, vous voyez finalement, quand on regarde ces cicatrices, eh bien, quand on utilise des molécules anticoagulantes, eh bien, on arrive à protéger. Les molécules anticoagulantes, vous les utilisez lorsque vous avez des problèmes de coagulation, de phlébite, etc. C'est quelque chose qui fluidifie le sang et qui naturellement peut avoir un intérêt pour revasculariser ces organes de façon intéressante. D'autres produits, là aussi, ce sont des produits finalement assez anciens qu'on utilise pour les hypertensions. Ce sont des équivalents, ce sont des diurétiques en fait, qu'on utilise souvent pour les hypertensions en traitement adjuvant. Et bien là, on est sur des produits qu'on est en train de finalement réactualiser. Ce sont de vieux produits qu'on réactualise dans ce contexte de l'ischémie reperfusion. Et de manière assez intéressante, et bien là aussi, on peut voir qu'un certain nombre d'effets sont attendus. Et là, on est plutôt dans du conditionnement parce que vous voyez, c'est finalement quelque chose que l'on va commencer à faire autour finalement de l'ischémie, autour de ces organes qui vont être privés finalement d'apport sanguin. Eh bien, on est là sur quelque chose qui est à la fois du conditionnement, mais à la fois également de la préparation à la reperfusion. Et de manière très intéressante, quand on regarde nos reins qui ont été traités, donc là on est sur un modèle qui est un modèle porcin, et à chaque fois qu'on va utiliser effectivement ces produits finalement dans ce conditionnement-là, eh bien, on peut voir que l'on améliore de manière assez significative la reprise de fonction. Vous voyez cette créatinine ici, toujours pareil, qui monte de façon dramatique lorsqu'on est sans le traitement. Et vous voyez que finalement, ici, on a à peine, presque à peine effleuré le rein et on obtient une reprise de fonction qui est beaucoup plus intéressante après une ischémie d'une heure. C'est-à-dire que là, pendant une heure, ces reins n'ont rien reçu. On a obtenu la même chose à 3 mois avec une amélioration très très nette là aussi au niveau de la cicatrisation et vraiment quelque chose de vraiment très remarquable. D'autres produits, et là c'est une unité de Poitiers qui travaille avec nous, effectivement c'est une entreprise qui travaille sur le développement, alors là elle est partie dans le développement aux États-Unis dans la FDA, donc là ils sont en train de valider les résultats que nous on a trouvés ici et on est en train de les développer effectivement aux États-Unis. Alors lui c'est une idée assez intéressante, c'est comment je protège une molécule finalement en la mettant dans un espèce de puits qu'on appelle une cyclodextrine, qui permet finalement à ces molécules de les rendre solubles dans un produit qui ressemble beaucoup à l'eau. Et je vous l'ai dit, les solutions de conservation sont des solutions aqueuses. Et bien donc là, on met ces molécules, on les cache finalement, et on peut les solubiliser dans les solutions de conservation. Et ça peut être assez intéressant pour cette période de conservation, pour les utiliser. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place, qui sont en train de s'améliorer, dont on est en train de comprendre l'intérêt et qui finalement sont en train de se développer. Si on va un petit peu plus loin, on est déjà sur quelque chose qui est un peu plus futuriste. On est toujours sur notre modèle porcin. Là, on est sur l'utilisation, par exemple, de cellules souches originales, puisqu'elles viennent des amniocytes, elles viennent du milieu amniocytaire. C'est ce qui entoure finalement le fœtus dans le ventre de sa mère. Et bien là, on a travaillé sur le porc, on a fait un modèle équivalent sur le porc, donc les porcelets était dans le liquide amniotique, on a récupéré le porcelet, on a pris les cellules souches, on les a fait pousser. 3 mois plus tard, on a fait en fait une transplantation, on a reproduit une situation de transplantation et on a injecté, 7 jours après la reperfusion, on a injecté ces cellules souches. Et de manière intéressante, on a regardé ce qui s'est passé et finalement, ces cellules souches, eh bien, elles ont là aussi eu un effet sur la reprise de fonction. Pardon, ça c'est un autre travail, excusez-moi. Ah, il y en a une qui a passé, qui a sauté. Bon, c'est pas grave. On a pu observer une amélioration significative de la reprise de fonction. Cette fois-ci, on n'est pas directement sur l'ischémie reperfusion, on est un petit peu plus à distance. Et finalement, c'est un traitement adjuvant qui peut être très intéressant au moment du 7e jour. Là, on est sur quelque chose qui peut se voir dans le cadre de banques particulières, de banques d'amniocytes, donc des situations qui peuvent effectivement se développer. Il y a aujourd'hui 2 banques amniocytaires au niveau mondial. Et ça peut faire partie des produits que l'on peut mettre effectivement en banque et qui peuvent être réutilisés dans des situations où on en a besoin. Encore plus précoce que finalement le ver marin dont je vous parlais tout à l'heure, les nouvelles molécules qu'on est en train de développer, là c'est une molécule qui elle est carrément en train d'être testée, qui est quelque chose qui va agir finalement au niveau de structures particulières durant l'ischémie. Et on a pu constater avec cette molécule, quand on l'utilisait, effectivement, là aussi, au moment de la préparation à la reperfusion, à l'ischémie-reperfusion, eh bien, cette molécule protégée avec une reprise de fonction plus intéressante et finalement, par rapport à l'évolution, une créatinine qui montait beaucoup moins haut et donc un rein qui marchait beaucoup mieux. Tous les phénomènes de mort cellulaire dont je vous parlais tout à l'heure, de ces lésions cellulaires, sont également nettement diminué dans cette situation-là. Et là, encore une fois de plus, vous voyez cette fibrose, cette cicatrice ici, eh bien, vous avez un rein qui est nettement amélioré avec l'utilisation de cette molécule. Là, on est en train de chercher, en fait, le moyen de fabriquer aujourd'hui un produit synthétique. C'est une collaboration avec une équipe niçoise et on devrait voir arriver prochainement une molécule en fait synthétique qu'on pourrait utiliser. Les machines de perfusion sont aussi en train d'évoluer. Ici, c'est une machine cardiaque pour le cœur, effectivement, qu'on voudrait adapter pour le rein. C'est une coopération lyonnaise. On voudrait arriver effectivement à avoir quelque chose qui va être très simple d'utilisation, avec une machine qui pourra circuler et surtout une machine qu'on pourra mettre dans d'autres machines, notamment pour faire de la radio avec ces outils-là et voir l'évaluation du greffon. Donc là, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Beaucoup de ces machines sont métalliques et donc ne peuvent pas être utilisées aujourd'hui dans les appareils comme l'IRM, par exemple, le scanner, donc ce qui nous pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc les choses sont en train d'évoluer par rapport à ça. Et là, c'est un programme que l'on est en train de développer à la fois pour le cœur et les reins. Pour le foie, on a des machines qui peuvent être effectivement intéressantes, qui vont se développer, qui peuvent être le principe de la machine jetable finalement, c'est-à-dire qu'on utilisera une machine pour transférer ses foies et ensuite on pourra jeter ces machines, ne pas les réutiliser. L'avantage, c'est qu'elles sont déjà compatibles avec les structures IRM. On peut changer un certain nombre de produits dans cette machine pour pouvoir les faire passer dans les IRM et les évaluer, ce qui peut avoir un certain intérêt. Donc là, ce sont des machines jetables qui ont des process de circulation, de perfusion qui sont assez intéressants. On a aussi l'évolution biologique. Ici, l'évolution biologique va être précieuse parce que l'évolution biologique, c'est d'avoir des marqueurs. Qu'est-ce que c'est un marqueur ? Un marqueur, c'est une molécule finalement qui va vous permettre de savoir comment est vos organes, comment sont vos organes, dans quel état de conservation ils sont et si surtout ils sont en train de souffrir beaucoup ou pas beaucoup. Et là, par exemple, au cours de la perfusion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un temps idéal pour faire ça parce que vous pouvez prélever de la solution de conservation, vous pouvez prélever un certain nombre de choses et finalement regarder ce qui se passe. Et là, vous avez tout un tas de familles que vous pouvez étudier, et ça, ça se fait par, là, c'est l'équivalent de l'IRM, mais pour les solutions biologiques, et vous pouvez voir un certain nombre de produits au cours du temps, comment ils évoluent, comment ils vont évoluer entre le moment du début de la perfusion et la suite de la perfusion. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir avoir une idée de l'état de votre rein. Ça permet de décider rapidement s'il faut perfuser ou pas. On est encore là sur autre chose, c'est un petit peu le principe du foie tout à l'heure. Là, c'est adapté aux poumons. Les transplanteurs pulmonaires sont très en avance par rapport à ça. Et aujourd'hui, quasiment, vous pouvez conserver votre poumon avec du sang, le ventiler et évaluer finalement comment ce poumon fonctionne et décider de le transplanter plus ou moins rapidement. Donc, vous voyez, on est en train d'aller vers des espèces de robots-machines qui vont prendre en charge ces organes, qui vont prendre en charge leur évaluation. Vous allez avoir ici le débit du sang, la résistance, même un certain nombre de marqueurs, parce que vous avez des capteurs qui vont pouvoir regarder dans le sang ce qui est en train de se passer pour un certain nombre de métabolites. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Et petit à petit, on est en train de partir vers quelque chose qui va commencer à se complexifier, mais qui va nous permettre d'être capable vraiment d'évaluer ces organes, parce que nous avons vraiment des outils pour le faire. Nous avons vraiment les moyens technologiques aujourd'hui de pouvoir évaluer. Vous êtes ici, par exemple, sur une notion de bande perfusion, qui est quelque chose où vous reconstituerez finalement une reperfusion chez le receveur, et vous serez en mesure, à ce moment-là, d'évaluer cet organe et de savoir quelle est sa qualité, et surtout, qu'est-ce que vous allez en faire pour le receveur qu'il y a derrière. Ici, c'est sur le foie, c'est la machine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train, là aussi, pareil, d'avancer vers des perfusions très complexes, avec des mesures qui viennent s'ajouter dessus, et également donc, des biomarqueurs qui sont en train d'être validés. Donc là, vous voyez le poumon, le rein, le foie, on est en train de partir vraiment vers quelque chose qui est en train d'évoluer beaucoup d'un point de vue perfusion. Ici, vous êtes sur une évolution biologique. Là, c'est un travail qui concerne notre équipe à Poitiers et Antoine, qui travaille donc dans l'unité. C'est un marqueur, vous voyez ici, c'est un marqueur qui est l'IL-33, qui est très intéressant. Et c'est quelque chose dont on a pu voir dans les urines et dans le sang, cette fois-ci, des receveurs, que c'est quelque chose qui évoluait très, très rapidement après la reperfusion, quelque chose qui montait très, très rapidement, effectivement, au sein du sérum, du sang et des urines et qui pouvait nous apporter des informations sur finalement un peu l'état d'inflammation de ces organes chez le receveur et donc déjà nous donner quelque chose qui pouvait nous mettre en alerte. Et ça va très très bien puisqu'il s'agit finalement de molécules que l'on appelle des alarmines et qui vont donc nous alarmer sur l'état d'inflammation de ces organes. Donc là aussi d'un point de vue biologique les choses sont en train d'avancer Et finalement, la conservation aujourd'hui, c'est quelque chose qui va aller vers de la médecine personnalisée, c'est quelque chose qui est très à la mode. Hein. Et on est en train finalement de partir vers une adaptation de la conservation des marqueurs biologiques vers des techniques qu'il va falloir utiliser. Puisque je vous l'ai dit, ces organes aujourd'hui sont souvent lésés par rapport à la qualité des donneurs. Eh bien, il va falloir alimenter la qualité des organes et être effectivement capable de prendre des décisions, d'où la nécessité d'avoir des biomarqueurs. Donc le donneur vivant, je vous en ai parlé tout à l'heure assez rapidement, ce n'est pas finalement celui qui pose le plus de problèmes. Puisque donneur vivant, eh bien, souvent, la reprise de fonction est de très bonne qualité, l'évolution de ses greffons est de très bonne qualité, mais on retrouve finalement ici, pour les donneurs marginaux, la perfusion machine, de l'oxygène ou pas, ici la conservation hypothermique, peut-être avec de la molécule de ver marin, de la molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure de Biocidex, ce Vectisol qu'on pourra utiliser, ou bien alors ce Solidactone, ce diurétique, enfin la possibilité d'utiliser donc un certain nombre d'additifs qu'il faudra mettre dans ces solutions de conservation. Et bien entendu, l'intérêt de la thérapie cellulaire qui n'est pas négligé. Vous avez vu ces fameux amniocytes qui pouvaient avoir un intérêt chez nos receveurs. Ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on a fait avec les machines de perfusion. Vous voyez, ce sont les outils dont on dispose. En moins de 2 heures, on est capable de vous faire donc un état des lieux, finalement, avec un certain nombre de marqueurs, et donc de donner des réponses aux cliniciens en 2 heures sur l'état de son greffon, ce qui est assez intéressant. Évolution technologique très rapidement, on a ces nouvelles machines, on commence à avoir des IRM, 3 Tesla, 7 Tesla, etc., etc. Donc on a une course au Tesla. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez une qualité de l'image qui va augmenter et surtout, vous pouvez combiner ça avec l'IRM pour les biofluides, pour les fluides dont je vous ai parlé, mais aussi avec d'autres marqueurs et finalement, vous êtes capable d'analyser. Et ça, c'est un point qui est très important, vous êtes capable d'analyser, probablement aussi avec les machines bientôt que vous pourrez mettre dedans. Vous serez capable d'avoir des informations sur vos organes et de pouvoir prendre finalement des décisions. Tout ça va faire que la conservation va évoluer. Et ça, c'est probablement l'innovation qui va être la plus importante dans les prochaines années. C'est comment est-ce qu'on va combiner ces différents systèmes, la conservation statique, les machines, etc. Comment est-ce qu'on va être en mesure de les combiner pour finalement arriver à une qualité de conservation, à une décision par rapport à la vitesse avec laquelle il faut transporter ces organes, qui peut être très, très intéressante et nous apporter en tout cas des solutions pour vraiment choisir la meilleure façon de conserver ces organes. Et le but, ben, ça va d'arriver finalement à ces systèmes d'évaluation entre les receveurs, le centre receveur et le centre de greffe, où les organes passeront par une évaluation et on sera en mesure donc, de prendre des décisions sur la rapidité de la transplantation à avoir chez ces patients ou pas, et d'avoir finalement la possibilité de refuser un organe et de dire « je ne transplante pas cet organe, ça ne sert à rien ». Et pour finir, la xénogreffe aujourd'hui est quelque chose qui reviendra certainement par la suite, mais pas tout de suite, on en est encore loin. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été intéressant à un moment, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi en train de se mettre en place, mais qui sont déjà un petit peu plus futuristes et qui sont certainement ni pour ce matin, ni cet après-midi, ni ce soir, ni demain, mais certainement pour après-après-demain. Mais il faut savoir, ça existe, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place finalement, et peut-être qu'un jour on en parlera. Tout ça pour vous dire que finalement la transplantation qui était devenue peut-être très facile grâce à tous ces pionniers qui ont travaillé dessus, est en train de se recomplexifier, mais parce que, en tout cas, certainement, que parce que la transplantation était devenue facile, elle a évolué d'un point de vue démographique. Et vous voyez, aujourd'hui, on est quand même avec des gens qui sont porteurs d'organes de plus en plus, mais qui finalement ont aussi des donneurs qui posent problème. Il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui existent en transplantation qu'il va falloir que l'on prenne en compte pour l'avenir si on veut augmenter le pool de donneurs et être efficace. Je vous remercie.
J'ai 2 questions à vous poser. Je peux ?
Oh, bien sûr. Allez-y.
Oui, vous avez signalé
le
circuit, les cellules circulant dans le ver de mer, et vous espérez trouver un produit synthétique qui ait un effet équivalent. Or, pour moi, les produits sortis du ver de mer sont des produits chiraux, alors que le produit synthétique que vous fabriquerez sera un mélange de X produits chiraux. Et vous pensez que l'un et l'autre sont équivalents. Moi, je voudrais poser la question à la salle. Savez-vous ce que sais qu'un produit chiral.
Non, vous allez me l'expliquer, monsieur.
Moi, je le sais.
Bah, allez-y.
Et vous aussi, je pense.
Bah, allez-y. Écoutez, parce que je suis
pas
sûr.
Et dans la salle, personne ne le sait. Et on fait de la chimie sans parler de ça. Or, la chiralité est le principe du vivant. Est-ce qu'on pourrait dire, monsieur, que tout ce qui n'est pas chiral n'est pas du vivant, et tout ce qui est du vivant est chiral?
Non, je crois que le problème du ver marin, il sort effectivement de la... Enfin, moi, je ne dis pas chiral, je dis chiralité, mais enfin, sort un peu de ce concept-là. Je crois qu'on est sur quelque chose qui va nous éviter une insécurité venant d'un organisme qui est un ver marin, parce que c'est un ver marin, c'est Arenicola. Oui. Donc, ça veut dire que dans sa préparation, on a un haut niveau de pureté, mais on... peut-être qu'on peut arriver et prendre des risques, enfin, en tout cas, peut-être qu'il peut y avoir un certain risque de contamination. Il est quasiment négatif aujourd'hui, mais il n'est pas exclu. Donc c'est vrai que si on arrive à synthétiser la séquence telle qu'elle existe aujourd'hui, être capable de reconstituer la protéine, on pourra à ce moment-là peut-être effectivement envisager les choses. Par contre, par rapport à ce que vous dites, vous avez raison, il va falloir quand même vérifier que ce produit synthétique a la même efficacité que son équivalent in vivo.
Et ça, là, c'est penser à tous les incidents qu'on a pu vivre dans la...
C'est le principe de la chiralité, comme vous l'avez dit, effectivement, il faudra donc s'en assurer. Absolument.
Bon, et l'autre question est plus légère, c'est je vends ma maison engagée.
Oui.
On m'a prévu 7 ans d'espérance de vie. Avec vos instruments, là, vous êtes capable de...
Ah, monsieur, ça concerne...
diagnostic d'espérance de vie.
Alors, c'est une autre question qui est très intéressante, effectivement. Mais là, on est surtout la transplantation. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une transplantation rénale?
J'en suis à la deuxième et ça fait au total 22 ans. Et j'ai vu les différences entre les deux.
Vous avez une tête à devenir ultra-centenaire, monsieur. Donc,
oui, c'est ça, bien sûr.
Donc, je n'achèterai pas votre maison.
Mais vous êtes capable de faire une prévision de...
C'est une vraie question. C'est une vraie question aujourd'hui. On a... Beaucoup de programmes sont en train de travailler là-dessus, effectivement, pour prédire le devenir d'un greffon chez le patient, et également associé à la survie spontanée aussi du patient. Là, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place en clinique, et on peut dire que oui, on est en train de progressivement de disposer d'algorithmes qui pourront permettre ça, ce qui ne sera pas négligeable, parce que ça permettra aussi de choisir la qualité du greffon pour l'adapter à l'espérance de vie du patient. Ça, je laisse Antoine vous répondre à cette question. Vu la tête qu'il fait, c'est pas sûr. C'est bon, vous avez encore une question? Non? C'est bon?
Moi, j'aimerais bien que vous expliquiez à tout le monde la chiralité. C'est pas si difficile que ça à expliquer.
Non, mais vous avez l'air de la dominer tellement, j'ai envie de... Je ne pas vous frustrer de ce plaisir. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Moi, je ne ferai qu'une vision très biochimique et chimique, ce qui n'est pas forcément celle qui sera la plus simple.
Ça dans les cours de physique, la chiralité.
C'est en physico-chimie que vous l'avez, la chiralité.
Connectique. Bon, ben moi, je vais vous parler de choses un peu moins scientifiques, pas forcément plus simples, et ben c'est pour nous un vrai challenge de vous expliquer simplement des choses qui peuvent paraître compliquées. Et donc, si ça ne marche pas, ben vous me balancez des tomates. Elles sont fournies, les tomates, Antoine, non? Ben vous m'arrêtez.
T'en as amené.
Je te fais confiance, je te connais depuis longtemps. Alors, ne soyez pas surpris, on travaille tous ensemble depuis longtemps, et donc il y a des choses forcément qui sont communes. Alors la première, c'est la chirurgie robotique. Alors vous savez qu'on peut faire du donneur vivant, Thierry nous l'a expliqué un peu tout à l'heure, et donc on va avoir comme préoccupation sur le donneur d'avoir une sécurité maximale, parce qu'on opère quelqu'un qui n'est pas malade, et donc c'est une responsabilité que vous nous collez sur les bretelles qui est quand même très lourde. Et donc voilà, on a une réflexion là-dessus. Alors qu'est-ce qui est dangereux sur le donneur vivant? Ben, c'est de lier l'artère. Et c'est pas du tout la même chose que quand vous faites une néphrectomie. Une néphrectomie, ça veut dire ablation du rein. C'est pas du tout la même chose quand vous enlevez un rein pour un cancer, par exemple. Pour une raison très simple, c'est que quand vous enlevez un rein pour une maladie du rein, le nœud, vous allez le faire ici, très loin de ce gros tuyau qui est à l'aorte et dans lequel règne une pression infernale. Et si je fais ça sur un don d'organe, j'ai plus d'artère pour coudre. Donc j'ai beau être très malin, mais j'y arrive pas. Et donc, en fait, il faut qu'on soit au ras de l'aorte, et là, il y a une pression absolument démente. Et donc, ça pousse, alors que là, on a quand même de la place. Donc, ça va nous donner un risque qui est supplémentaire. Alors, comment on peut faire quand on est en chirurgie mini-invasive sans ouvrir pour trouver des moyens simples? Évidemment, quand vous ne mettez pas les mains dedans, que vous n'avez que des baguettes, c'est-à-dire la cœlioscopie, vous avez déjà mangé du riz avec des baguettes, on est quand même beaucoup moins habile qu'avec une fourchette. Et donc, vous allez prendre un clip, c'est quelque chose que vous fermez comme ça, et vous retirez. Et le problème, c'est qu'il y a une telle pression, donc voilà un clip. Vous voyez, alors il y a un système de verrouillage ici, que vous avez là, mais pour autant, ces clips, ils peuvent glisser. Ils ne s'ouvrent pas, jamais, mais ils peuvent glisser. Alors vous imaginez que si ça glisse, ça ne se passe pas bien. Et malheureusement, il y a eu des morts comme ça dans le monde, au début de ces techniques cœlioscopiques sur le donneur vivant. Alors vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5, mais fait, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus d'artère, et vous ne pouvez plus coudre. Donc, et ils peuvent glisser, on a déjà eu des accidents avec plusieurs clips. Alors vous pouvez en mettre 3, mais il y a un moment où vous n'avez plus rien pour coudre. Alors une des façons de faire éventuellement, c'est de mettre un nœud, un vrai nœud comme on faisait quand on ouvrait en utilisant toutes nos mains. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça avec des baguettes, c'est extrêmement difficile à faire. Voilà, et vous allez perdre de la place, que ça va vous consommer 15 à 25 mm d'artères qui vont être très importantes pour pouvoir derrière faire la suture. Alors vous avez des systèmes d'agrafeuse automatique, mais de temps en temps, ces agrafeuses automatiques, elles foirent, elles ne marchent pas. Et donc ça vous donne une situation où vous avez comme ça, hop, avec au bout des baguettes dans le ventre, et vous appuyez sur l'agrafeuse, et l'agrafeuse n'agrafe pas. Sympa. Alors quand vous êtes avec deux feuilles de papier, ça va encore. Quand vous êtes dans le ventre sur une artère rénale, c'est un peu plus compliqué. Et puis vous avez, pour sécuriser, la volonté de mettre encore un clip, et ça va encore vous consommer de l'artère. Certains le mettent sur les agrafes. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose. Mais vous voyez, c'est le côté un peu contraphobique dont on a besoin, nous les chirurgiens, parce que c'est un peu inquiétant. Et puis vous avez la possibilité de mettre un nœud, de mettre un clip, et puis d'aller faire un vrai surjet exactement comme ce qu'on fait quand on a nos mains et toute l'agilité qu'on a dans nos mains et qu'on n'a bien sûr pas au bout d'instruments qui sont rigides. Alors ça, c'est bien sûr ce qui est à mon avis préférable et c'est ce que le robot permet de faire. Parce que quand vous allez opérer avec un robot, vous voyez, vous avez ces petits outils-là qui nous permettent de retrouver tous les degrés de mobilité de la main. Et donc on va finalement combiner tous les intérêts de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire on ne va pas ouvrir et on récupère toute l'habilité de la main. Si on rajoute là-dessus qu'on a deux optiques qui vont nous permettre de superposer l'image et de récupérer une vision en 3D, et qu'on associe à ça un microscope, on a des possibilités de qualité de gestes opératoires qui sont même supérieures à ce qu'on fait en chirurgie ouverte. Et donc c'est absolument fabuleux. Et la question n'est pas, à mon avis, de dire est-ce que le robot c'est mieux, c'est tellement évident. Le problème c'est pourquoi c'est si cher et pourquoi c'est pas encore si diffusé que ça. Alors je vous rassure, le robot il opère pas. Ce n'est qu'un super outil. On n'est pas comme un pilote d'avion qui se met en pilote automatique et qui peut piquer son roupillon. C'est nous qui faisons le boulot. Ça n'est qu'un très très bel outil. Alors, on a le temps de passer un petit film. Donc, je vais vous montrer ça en espérant que ça marche. J'ai toujours le problème. Voilà. Donc, vous voyez, le patient est sur le côté. Alors, on met des tas de trocars pour pouvoir rentrer tous nos outils. C'est assez technique. Et vous allez voir, voilà, on a une vision qui est extrêmement précise. Vous voyez qu'on garde ces outils qui ont une précision et une possibilité de bouger. Alors vous avez l'urtère ici, vous voyez, qui est le tuyau qui va véhiculer l'urine. Vous voyez que dès qu'on le touche, il se met à se contracter. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Et là, on arrive à opérer avec une précision comme si on était sous microscope. On voit encore mieux que si on était à l'œil nu et à ciel ouvert. Là, vous avez la veine rénale ici. Vous voyez, ici, vous êtes sur la veine rénale et là, vous êtes sur l'artère. Vous voyez que là, on est au ras de l'aorte. L'aorte, elle est là. Et c'est ici qu'on va pouvoir placer nos clips. Et donc, vous voyez que si ça glisse, ça ne se passe pas bien. Donc là, on a une vision de ce pédicule rénal qu'on n'a même pas à ciel ouvert. Donc, ce robot, c'est absolument fabuleux. Ça nous donne une vision. Alors, voilà le premier nœud qu'on va mettre et qui va venir casser la pression. Et vous allez voir que l'opérateur, avec ses outils et la mobilité qu'on récupère, on est capable de faire un nœud exactement comme si on le faisait à la main. S'il fallait faire ça avec des outils qui n'ont pas assez de degrés de mobilité, ce serait un enfer. Donc ce robot, ça nous amène vraiment une sécurité qui est absolument incroyable. Alors on va venir doubler avec un clip, et puis vous allez voir qu'on va venir couper l'artère, voilà, avec les ciseaux, et on peut les incliner comme ça, pour être bien parallèle au clip, et puis là on fait pareil sur la veine, on va couper la veine, Et vous allez voir ensuite qu'on va pouvoir faire un petit surjet de prolène. Le prolène, c'est un fil qui n'est pas résorbable, si bien qu'on va sécuriser ses ceintures et bretelles, et nous, derrière, on peut dormir tranquille, et c'est important de dormir tranquille. Mais je crois que c'est encore plus important pour le patient d'avoir été opéré avec toute la sécurité. Voilà, donc c'est vraiment... la question n'est pas est-ce que c'est bien, c'est évident que c'est bien. La question, c'est il faut en mettre partout. Alors, vous voyez, on passe le fil, voilà, le fil de prolène. Et vous voyez que ces outils nous permettent exactement de faire les mêmes gestes que si on était à ciel ouvert. Donc, ça nous donne une sécurité qui est vraiment absolument fabuleuse. Voilà, vous voyez le fil, on fait hop, exactement la même chose que si c'était nos mains dedans, sauf que c'est bien sûr beaucoup plus petit et ça nous permet de limiter les incisions. Alors, si on peut prélever le greffon, est-ce qu'on peut implanter le greffon avec le robot? Alors, au départ, c'était non. Et puis, ça commence à venir. Le premier cas, vous voyez, c'est Henri Mondor 2001. Puis Chicago qui va commencer à publier le premier cas au robot. Et s'intéresser à ce robot sur, non pas tous les receveurs, mais les receveurs qui sont en surpoids, avec des index de masse corporelle très élevés. 41, ça commence à être vraiment, vraiment très important. Et donc, bien sûr, chez ces patients-là, l'incision, c'est un vrai problème. Il y a des complications absolument majeures. Donc, on aurait un grand intérêt à pouvoir être capable de faire la chirurgie robotique dans ces conditions-là. Alors, il faut attendre 2015, vous voyez, pour que à Chicago, ils sortent une première série de 135 malades. C'est pas beaucoup, 135. Mais c'est un début. Et donc, la question maintenant se pose par quelle technique ne cherchez pas à lire, c'est compliqué. Ça veut juste dire qu'il y a plusieurs techniques et qu'on est en train de chercher. Est-ce qu'il faut mettre le robot entre les jambes, de ce côté, à droite, à gauche? Quand est-ce qu'il faut l'amarrer? Quand est-ce qu'il faut le désamarrer? On est en train de chercher. Et donc, on est en train de... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On est en train de se demander quelle est la meilleure technique optimale. Et si on se pose la question, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. Mais regardez cette expérience de Chicago. Regardez dans le cadre rouge, les complications pariétales, c'est-à-dire au niveau des muscles et de la ponévrose, de la fermeture. Quand on a fait de la chirurgie robotique, c'est 3,6%, on est à 28% quand on a fait à ciel ouvert. Pareil pour les infections, 0 versus 8. Donc vous voyez qu'on a un avantage chez ces patients-là à essayer de faire ça. Alors c'est pas simple. On a des séries maintenant qui montrent des accidents avec des reins qui se sont thrombosés, c'est-à-dire les vaisseaux se sont bouchés. Donc on est en train de chercher, il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage, on est dedans, et donc on se pose ces questions-là. En termes de fonction rénale, est-ce que le fait d'avoir greffé avec le robot va faire que la fonction est moins bonne? La réponse est non, on aura la même chose. De ce côté-là, on n'est pas très inquiet. Donc voilà, on a des questions devant nous, à qui on va proposer ça, comment on va le faire. L'ischémie chaude, Thierry nous a raconté cette ischémie. Alors, une des façons de la limiter, c'est de faire ce que vous faites avec votre frigidaire, hein, c'est la loi de Van't Hoff, 4 degrés. Et bien, quand vous êtes avec l'abdomen fermé et que vous opérez avec ces techniques-là, comment est-ce que vous refroidissez? Donc, il y a deux écoles, il y a ceux qui essaient de refroidir avec de la glace pilée, mais comment vous la mettez dedans? Puis il y a ceux qui ne refroidissent pas. Vous voyez, c'est que les problèmes techniques, hein, alors là, on n'est pas dans la science, pourtant c'est fondamental, et tout ça n'est pas réglé. Quel coût? Et puis après, il faut que le robot soit disponible, parce que les greffeurs, ils greffent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ce qui nous fatigue un peu. D'ailleurs, on préférerait faire ça à heure ouvrable. Donc, il y a des tas de questions qui ne sont pas résolues. Regardez le coût. Vous voyez cette petite pince-là? Rien du tout. C'est juste pour écarter. 2 950 $. Vous l'utilisez 10 fois. C'est programmé. Au bout de 10 fois, vous pouvez l'acheter. Ça ne marche plus. Même si elle vous paraît bien, au point de vue informatique, elle ne marche plus. Donc, vous voyez, c'est un vrai coût. Donc, ce n'est pas pour tout le monde que là, clairement, ça va être dans un certain nombre d'indications. Volet supplémentaire, la formation des chirurgiens. C'est fondamental, c'est difficile. Et la région est assez dynamique. On a créé, il y a bientôt 10 ans maintenant, et Véronique qui est présente là soutient cette initiative de façon extrêmement volontaire. On a créé l'école francophone de prélèvement multi-organes pour former correctement les chirurgiens et de manière homogène sur le pays. Et depuis l'an dernier, on organise la session à Poitiers, dans le laboratoire de simulation de Poitiers. Cette année, on va recommencer et on va fêter nos 10 ans. Et donc, vous voyez, c'est dans une ambiance à la fois extrêmement scientifique, technique et conviviale. Là, on est sur la pelouse devant la fac de médecine de Poitiers. Et donc, on a formé 500 personnes et on continue. Et donc, ça se passe dans le Poitou. Thierry nous a parlé des machines, ces petites machines. Vous voyez, alors ça, c'est celle, la machine LifePort, où le principe va être de ne pas laisser l'organe en statique dans son bocal, comme vous faites pour le beurre à 4 degrés dans votre frigidaire, mais au contraire de le perfuser. Alors c'est plus compliqué. Jusqu'à présent, effectivement, comme c'était plus compliqué, qu'on n'avait jamais vraiment montré que ça marchait, les machines étaient dans le placard. Et puis maintenant, bah, les choses ont un peu changé pour des plein de raisons. Les machines se sont améliorées et puis les greffons se dégradent parce que comme on manque de greffons, on va les prélever de plus en plus loin et donc forcément, il y a un prix à payer. Alors, il y a une étude qui est assez clé, alors elle ne date pas d'aujourd'hui, mais là, maintenant, on en voit tous les effets, qui a fait un essai en tirant au sort un rein sur la machine ou un rein pas sur la machine. Et alors qu'on cherchait à voir si le rein redémarrait mieux, il y a quelque chose qui nous est sauté au visage et qui n'était pas prévu, c'est qu'en fait, la survie du rein est améliorée. Et donc, c'est un 4% à 3 ans, enfin à 1 an, revérifié à 3 ans, puis là, maintenant, ça continue à se vérifier. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on a un bénéfice évident en termes de long terme à mettre ses reins sur machine. Et c'est regarder surtout les reins qui vont faire ce qu'on appelle une reprise ordinaire de fonction. Alors, c'est le syndrome du pas vu, pas pris. Regardez les deux courbes du haut, ces deux-là. Si votre rein, c'est les deux courbes-là. Si les deux reins, si vos reins, votre rein reprend une fonction tout de suite, il n'y a pas de différence de survie à long terme selon que vous l'avez mis en statique ou sur la machine. Si par contre, votre rein ne redémarre pas tout de suite, alors ça se définit de façon très simple, vous avez besoin d'au moins une séance d'hémodialyse après la première semaine, pendant la première semaine post-opératoire. Eh bien, la différence de survie, ça c'est les reins qui ont été mis sur machine, ça c'est les reins qui n'ont pas été mis sur machine. Là, vous passez à la caisse. Et au moment où je dois prendre, moi, chirurgien, la décision, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, la seule façon de faire, c'est d'avoir un parti pris pour la machine. De se dire, j'ai ces facteurs de risque, je le mets sur machine. Et c'est ce qu'on a fait en France avec une politique extrêmement volontariste. Alors, vous voyez, regardez un autre exemple sur un registre américain, 97 000 transplantations, trois fois rien. Vous avez les barres noires derrière, c'est les reins qui n'ont pas été mis sur machine. Les barres grises devant, c'est les reins qui ont été mis sur machine. Et la hauteur de la barre, c'est le nombre de reins qui auront fait cette reprise sur ordinaire de fonction, qu'on cherche bien sûr à éviter. Et là, ici, sur cet axe-là, c'est le temps qui passe depuis le moment où vous l'avez prélevé. Ça, c'est les bons greffons. Vous voyez que les barres grises sont toujours moins hautes que les noires. Et puis, plus ça va, et plus le taux est important, même avec la machine. Ça, c'est les greffons marginaux, donneurs âgés, globalement. Et ça, c'est les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Et donc, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que, quel que soit le type de donneur, l'effet machine, il est là. Et deuxièmement, la machine, elle ne nous permet pas d'aller dormir. Parce que même sur la machine, si on attend, on augmente le risque de reprise ordinaire de fonction. Alors nous, on a envie de dire efflute parce que dormir la nuit, on préfère quand même. Hein. Greffer à 22h ou 23h le soir, ça ne nous amuse pas. Mais ça veut dire qu'il faut quand même le faire. Donc la machine, elle ne nous a pas encore réglé tous les problèmes. Donc il faut l'utiliser, mais il faut quand même continuer à le faire vite. Alors comment ça marche cette machine? C'est sympa, ça, mais comment ça marche? Eh bien, elle va ouvrir le système vasculaire. C'est très, très impressionnant. Et quand on mesure les résistances du rein, elles sont fortes au début. Puis en 2-3 heures, c'est comme une huître, il va s'ouvrir, il va se relâcher. On le prend dans nos bras, on le berce et puis ça va se relâcher. Alors, ce n'est pas le seul effet mécanique parce qu'en fait, si on perfuse avec de fortes pressions, on a de moins bons résultats. Mais en fait, on va, à ce que j'appelle caresser la cellule endothéliale dans le sens du poil. Alors, la cellule endothéliale, c'est un truc absolument merveilleux. L'endothélium, c'est quoi? C'est ce qui tapisse l'intérieur des vaisseaux. Et quand vous y réfléchissez, quand je fais la greffe, bien sûr, je mets des clans sur les vaisseaux parce que si j'ouvre l'artère sans mettre des clans, je repeins le plafond. Donc pendant qu'on fait la couture, ça ne circule pas. Et puis une fois que tout est fini, on va enlever les clans. Et dans la seconde qui suit, le receveur et le donneur vont commencer à se parler. Et en fait, le sang du receveur va être en contact avec quoi? Quelle structure? La cellule endothéliale du donneur. C'est le premier truc. Et là, pour nous, c'est une clé absolument fondamentale. Et soit cet endothélium, cette barrière endothéliale a été bien respectée, soit elle n'a pas été bien préservée et c'est une passoire. Et là, ça se passe beaucoup moins bien. Alors, on sait maintenant que ces cellules endothéliales, il faut leur parler très gentiment. Et elles ont leur surface qu'on appelle des mécanorécepteurs. Si elles sentent un flux, et elles sont programmées pour ça, si on les caresse gentiment, elles vont bien, elles vont survivre. Si vous ne mettez pas de flux, eh ben, elles ne ronronnent pas. Et elles vont crever, elles vont rentrer en apoptose, une des façons de mourir pour une cellule. Et donc voilà, c'est ça, je le fais très schématiquement, mais c'est ça. Alors on peut être un peu plus scientifique, KLF2, c'est une petite molécule clé qui va protéger ces vaisseaux. Regardez une culture de cellules endothéliales ici. Vous avez ici, vous mettez du flux pendant 24 heures, votre KLF2 il est élevé, puis vous arrêtez, une heure et demie, deux heures et demie, trois heures, au bout de trois heures, vous n'en avez quasiment plus. votre cellule elle est en train de mourir. Là, elle ronronne gentiment, là, c'est fini. Elle est très en colère. Donc voilà, préserver les reins sur machine, ça va être ça. Ce qui est intéressant, regardez cette expérience qu'on a faite dans un autre labo. Ça, c'est en Allemagne, c'est à Bonn. Vous ne les caressez pas, vos cellules. Votre KLF2, il est moyen. Vous la mettez sur machine, ça monte. Et le KLF2, le rein n'était pas sur machine, vous le mettez secondairement sur machine. C'est la barre verte. Vous êtes capable de faire réapparaître KLF2. Donc, ça veut dire que même si vous recevez un rein de Poitiers, parce que, par exemple, ils ne les mettent pas sur machine, ça, c'est pour plaisanter, vous les mettez beaucoup sur machine. Tous, il faut les féliciter. Mais ça arrive qu'on reçoive tous des reins d'un autre centre qui n'était pas sur machine. Et bien cette diapo, elle veut dire que vous avez intérêt, même pour 2 ou 3 heures, à le mettre sur machine. Alors, si vous avez bien préservé votre cellule antilla, si vous l'avez bien caressée, eh bien, les cellules du receveur, quand vous avez déclampé, elles vont moins rentrer dans le rein. Et regardez ce qu'on a fait au laboratoire avec Thierry. C'est les reins qui ont été perfusés avec la machine et la bonne solution de préservation, c'est la courbe jaune. C'est ceux-là qui ont le moins d'infiltration cellulaire, comme par hasard. Et puis ceux qui ont été mal préservés, c'est le bleu. Hop, ils sont complètement envahis par les cellules du receveur. Et là, le conflit immunologique va démarrer très fort. Alors le conflit immunologique, eh bien, ça se passe déjà au bloc opératoire dans les mains des chirurgiens. Ce que tout le monde n'a pas compris, c'est fondamental. Je suis à peine à la moitié de mon topo. J'ai 5 minutes, je ne vais jamais y arriver. Juste pour vous expliquer, et c'est très important, que cette ischémie reperfusion, elle va déclencher des phénomènes et toute une cascade comme ça qui va arriver en fait à fournir comme une prise électrique. Si vous voulez que votre système immunitaire rejette le greffon, il faut le brancher. Et donc il y a une prise qui va reconnaître, une des fiches là de la prise qui va reconnaître l'antigène. Et le deuxième, ça vient de toute cette inflammation qui est provoquée par ce greffon qui est mal préservé. Si vous améliorez ça, c'est un peu comme si vous supprimez votre prise. Ça, vous pouvez brancher votre lampe, là, elle ne va pas s'allumer. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire en permanence, en essayant de mieux préserver les greffons. Et bien, si on regarde ce qui se passe sur la machine, TLR4 et HMGB1, c'est des choses qui allument cette immunité, cette deuxième fiche. Quand vous perfusez les greffons, que ce soit d'emblée ou secondairement, elle diminue. Donc là encore, on a une seconde preuve, ou une troisième, ou une quatrième preuve de l'effet des machines. Cette perfusion, comme elle préserve mieux, elle réduit la fibrose. Thierry nous l'a montré tout à l'heure. Tout ce qui est rouge, c'est de la cicatrice, c'est du tissu qui n'est plus fonctionnel. C'est plus du rein. Et tout ce qui est jaune, c'est du rein. Eh bien, c'est ces machines-là, quand les reins ont été perfusés avec la bonne solution, qui fait qu'on a très peu de fibrose. Donc vous voyez comment tous ces éléments du puzzle arrivent à faire qu'on est absolument convaincu que ces machines sont essentielles. Pour autant, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ces machines, elles ne vont pas réfléchir à notre place. Et dans l'état actuel, à 4 degrés, elles sont assez sommaires. Ce n'est pas un cockpit d'A380 qui va nous permettre de dire ce rein-là, vous pouvez le prendre, celui-là, vous ne pouvez pas le prendre. On rêverait de ça. On n'aurait plus à réfléchir. On n'aurait plus la synthèse de tous les paramètres à faire. Et on pourrait aller se coucher, ce serait bien. On a un truc un peu merdique comme ça. Et on est tout complètement obligé de continuer à faire la synthèse. En plus, c'est économique. Donc ça, ces machines-là nous permettent de greffer plus de malades, donc ça nous coûte ça en plus. On économise tout ça en dialyse. Donc au bout du compte, en investissant dans la machine, on gagne de l'argent. Alors la France a été le premier pays à se doter d'un forfait pour la machine. On doit préserver tous les reins à critères étendus, donc Poitiers 100%. Ça, c'est les chiffres nationaux. On a commencé à 4% en 2010. On est à 74% sur les premiers mois de 2017. Il nous reste encore un quart. Donc il y a encore du boulot, mais on progresse. Alors, est-ce que ça a un impact, ce programme, en France? Ben, réponse oui. Regardez le taux de non-fonction primaire, le rein qui ne redémarre jamais, catastrophe. Eh bien, quand on les a mis en statique, pas sur la machine 5,3, quand on les a mis sur la machine 3,5, le taux de reprise de la fonction, qui n'est pas une bonne chose, si vous êtes en statique 21,8, si vous les mettez sur machine, 16,2. Donc, on gagne du temps. Alors, on va avancer un peu, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, on va rajouter de l'oxygène. Thierry nous a montré que même à 4 degrés, de l'oxygène, c'est bon. On va rajouter du verre marin. Donc, on vient de faire un premier essai avec Poitiers, 60 malades pour s'assurer qu'on ne faisait pas de bêtises. Je peux vous dire, on ne fait pas de bêtises. Donc, maintenant, on va tester sur l'efficacité. Et on sait que l'effet machine et cet effet hémoglobine du verre marin s'additionnent. Donc, c'est intéressant. Donc, on a appris sur ces machines-là que ça marche, qu'il faut prendre tous les greffons à risque de lésion d'ischémie et perfusion. Ne pas le faire, ça représente une perte de chance. Ça fait que commencer. Ça va se complexifier et un jour, ça va déboucher sur des laboratoires de perfusion avec des gens spécialisés. Alors ici, on est très fondu ischémie reperfusion, à tel point qu'on organise, on est les seuls, je pense, dans le monde, à organiser un congrès depuis 8 ans qui est spécialisé sur l'ischémie reperfusion, congrès international, qui a lieu à Poitiers, si ça vous intéresse, et ben c'est 19-20 avril, le niveau est un peu élevé, hein, je veux dire, c'est un peu... Voilà. Alors, on manque de réfonds, mais là je vois qu'Antoine désespère, il est reparti pour un tour. C'est pour ça qu'on a mis il y a quelques années les donneurs décédés par arrêt circulatoire, dont vous avez peut-être entendu parler, il y a deux types, les M2 et les M3. Alors, je vais juste passer très vite, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Enfin, si, mais on va prendre du temps, et ça va être trop long. Pour vous dire qu'en France, on a été assez malin, quand même. On ne va pas faire cocorico, mais on ne va non plus faire du bashing, c'est le bashing en permanence. On a utilisé cette circulation régionale normothermique. C'est-à-dire, finalement, on a pris comme option pour préserver ces organes qui souffraient, non pas de les mettre à 4 degrés tout de suite, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous figez une situation. Si elle est médiocre, et bien elle est médiocre, et vous avez figé une situation médiocre. On est plus ambitieux que ça, on veut réparer les organes avant de les mettre à 4 degrés. C'est le principe de faire une circulation régionale normothermique. Et finalement, tout le pays s'y est mis, et ça a été un vrai plus. Alors, je vais aller directement à la comparaison avec nos amis espagnols, dont on nous rebat les oreilles en permanence, pour vous montrer la différence de résultats, qui est celle-là, voilà. Voilà, j'arrive ici. Non, où est-ce qu'elle est passée cette diapo? Bon, je ne la vois plus, peu importe. Tu vois, si on voulait accélérer, on se prend les pieds dans le tapis. Juste pour vous dire que sur le programme espagnol, ils ont 49% de reprise au travail des fonctions quand on a 10% en France. Tout ça parce que la circulation régionale normothermique a été adoptée par tous les centres en France, plus la perfusion sur machine pour traiter ces greffons de donneurs en arrêt circulatoire qui ont souffert d'ischémie chaude. C'est-à-dire que le cœur s'est arrêté, l'organe n'est pas perfusé, il n'est pas à 4 degrés. C'est une situation extrêmement délétère. Et donc finalement, on arrive assez bien à la gérer. Et c'est assez amusant, c'est que la CRN, j'ai été la chercher à Barcelone, où j'ai fait la première en janvier 2008 à la Pitié. Mais j'ai été la prendre à Barcelone, je ne l'ai pas du tout inventé. Et ils n'ont pas imposé la CRN dans leur pays, ils n'ont pas imposé les machines. Ils sont à 49% de représentation de fonction. Donc on a fait probablement les bons choix stratégiques collectivement dans ce pays. Nouvelle molécule en vue. On va faire un peu d'immunologie pour vous expliquer très schématiquement ce que c'est qu'une réaction de rejet. Le système immunitaire, il a deux bras, un bras gauche et un bras droit. Il a tout un système cellulaire qui va passer par les lymphocytes T, qui est tout ce truc-là à droite, et qui va aboutir à la destruction du greffon, ou la lésion du greffon, par des cellules. Et il a un deuxième bras à gauche, qui est ce qu'on appelle le bras humoral, et qui va, par les lymphocytes B et la production d'anticorps, provoquer ce qu'on appelle un rejet humoral. Alors ça, on est resté aveugle pendant des années, on ne le connaissait même pas, cette partie gauche, et pendant 20 ans, tous les travaux d'immunologie se sont concentrés sur cette partie-là, et on a inventé des tas de molécules, on a beaucoup progressé, et pour ceux d'entre vous qui sont greffés, les médicaments que vous prenez actuellement, ils visent tout ce bras droit-là. Et puis on a compris, il y a maintenant une dizaine d'années, que ça c'était fondamental et qu'on l'avait négligé, et qu'on a un vrai problème avec ce rejet humoral et ce rejet humoral chronique, pour lequel on est absolument incapable d'avoir des traitements efficaces. Et là, depuis maintenant une petite année, on va dire un peu plus, on a trois molécules qui sont dignes d'intérêt. Le belatacept, le tocilizumab, qui va aller viser cette molécule interleukine 6, qui est une des façons que le lymphocyte T va pouvoir avoir pour causer avec le lymphocyte B et l'activer. Et puis, AIDES, qui est une espèce de ciseau anticorps, qui est assez puissant et dont on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc là, il y a trois choses nouvelles qui apparaissent. Alors le belatacept, quand je disais l'an dernier, j'exagère un peu, puisqu'on a des résultats à 7 ans. Donc c'est un mécanisme d'action qui est très spécifique. C'est la première molécule dans ce genre-là, en transplantation, parce que ça a été utilisé dans d'autres maladies. C'est ce qu'on appelle donc le belatacept, qui a une particularité, c'est qu'on administre une fois par mois par voie intraveineuse. Donc ce n'est pas du tout le médicament qu'on prend tous les jours par la bouche. Et les résultats à 7 ans montrent qu'on a une meilleure fonction du greffon parce qu'il n'est pas néphrotoxique. Et chose un peu nouvelle auquel on ne s'attendait pas vraiment, c'est que les gens qui sont traités par les belatacept ont moins de ce qu'on appelle les DSA. Alors DSA, c'est des anticorps qui apparaissent, qui sont dirigés contre le greffon et donc responsables du rejet humoral. Et donc on est en train de comprendre que ce n'est pas tout à fait un hasard et qu'il y a des raisons biochimique et immunologique, de voir que ces DSA apparaissent moins sous belatacept, ce qui nous donne un espoir assez important d'une molécule qui pourrait nous servir à lutter contre ça. Donc on a une étude française qui a été présentée là, au congrès dont parlait Antoine, ce bel accord, et donc dont les objectifs sont justement d'utiliser, enfin d'étudier l'intérêt du bilatacept chez les patients à risque immunologique. Alors je ne vais pas tout vous présenter, mais simplement on s'aperçoit qu'en fait, après un an de traitement, le taux d'anticorps contre le greffon, il est plutôt moins important qu'il ne l'était quand ils ont commencé la greffe. Ou alors qu'il devrait monter, ils sont en train de baisser. Donc c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir, c'est pas du tout fixé, mais peut-être que là, on commence à avoir un outil qui nous donne un peu d'espoir là-dedans. Alors le problème qu'on a, il est double, c'est qu'on se bagarre avec les autorités pour trouver un prix pour qu'il soit remboursé, et donc pour le moment, on ne l'a pas disponible sur le marché français, ce qui est un vrai problème. Donc il y a un bras de fer entre les patients, nous qui sommes l'avocat des patients, les avocats des patients et nos institutions. Et on est monté au créneau plusieurs fois en tant que société francophone de transplantation. Et puis le labo est un peu victime de son succès, ils ont des problèmes de production. Et donc là, jusqu'à mi-2018, pour le moment, on est en panne, ce qui est un vrai problème. Et puis cette molécule, AIDES, donc cette espèce de ciseau anticorps, qui va donc, l'anticorps, ça a une forme de Y comme ça. Ça va venir couper ici. Et donc l'anticorps n'est plus fonctionnel. Alors c'est assez intéressant, notamment pour des gens qui sont bourrés d'anticorps avant la greffe et qu'on n'arrive pas à greffer. Vous avez tous entendu parler de désensibilisation avec des méthodes plus ou moins faciles et efficaces et bien sûr plus ou moins dangereuses, et c'est tout le problème. Donc là il semblerait que ce soit très efficace, ça a été étudié en Suède, aux États-Unis, en Suède avec efficacité mais un effet rebond, c'est qu'à chaque fois qu'on coupe la tête de l'anticorps, c'est comme s'il y en avait deux qui repoussaient derrière. Et donc là, on ne sait pas encore bien comment on va gérer ça. Et bien sûr, il est hors de question de vous dire que ça y est, on a trouvé la solution. Ne croyez surtout pas ça. Mais là, il y a une vraie avancée. Et il faut être prudent parce qu'on a très peu de malades, qu'on n'a pour le moment pas de comparaison aux autres techniques. Et puis bien sûr, quand vous dégommez les anticorps, si les anticorps ne servent à rien, on le saurait. Et donc, ça va nous exposer à un risque que pour le moment, on n'a pas encore bien maîtrisé. Et bien sûr, notamment un risque infectieux. Pas seulement, mais un risque infectieux. Donc, une petite lueur d'espoir. Mais n'achetez pas ça comme ça y est, c'est réglé. Troisième molécule qui nous intéresse, c'est le tocilizumab. Donc lui qui va être dirigé contre cet interleukin 6, qui est donc cette petite molécule qui va permettre notamment l'interaction entre les lymphocytes T et le lymphocyte B. Et là encore, il y a une première étude intéressante, mais qui n'est pas encore répétée ailleurs. 36 transplantations, vous voyez, comme c'est très très peu. Mais c'est des gens qui avaient l'échec du traitement antérieur classique qu'on utilise aujourd'hui sur du rejet humoral, qui sont traités par cette molécule-là, dont logiquement on peut penser qu'elle va avoir un effet. Et bien, il y a 80% de survie de greffon, 80% de survie de patient, donc c'est quand même assez intéressant. Stabilisation de la fonction rénale après 2 ans de traitement, réduction du taux de DSA, donc de ces anticorps-là, et semble-t-il pas d'effet secondaire majeur. Donc est-ce que là on n'a pas un candidat? Donc bien sûr, c'est pas sur une étude comme ça que vous pouvez décider d'utiliser, de donner la MM, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Il va falloir faire des études qui vont coûter des millions et des millions pour qu'on puisse voir si c'est réel. Disons qu'il y a une petite espoir, et je trouve que ces 3 molécules nous redonnent un peu de pêche, parce que dans ce domaine du rejet humoral, on est un petit peu désespéré. Donc voilà, en conclusion, ça progresse. Si vous me demandiez quels sont les 2 gros chantiers en transplantation, moi je vous dirais préservation d'organes, tout ce qu'on a parlé avec les machines, tout ce qui va se sophistiquer, parce qu'il faut absolument qu'on puisse utiliser plus d'organes et qu'on ne les abîme pas pendant toute cette période d'ischémie à perfusion, et puis ce traitement du rejet humoral qui nous empoisonne, et là il y a un petit peu de frémissement. Donc la route est encore longue, on ne va pas dire que tout est gagné, mais il ne faut pas être pessimiste, donc on progresse, ça bosse et il faut continuer. Voilà, je vous remercie. C'est une question intéressante que vous posez là, c'est-à-dire que nous, les cliniciens, vu le niveau de ces essais-là qui coûtent des millions, on n'a pas beaucoup voix au chapitre. C'est-à-dire que c'est beaucoup voix au chapitre. C'est-à-dire que c'est des gros groupes internationaux qui décident de stratégie et de politique à l'échelon international, et c'est pas des études, c'est tellement cher que c'est pas avec nos petits PHRC, nous, en France par exemple, qu'on peut mener des études pareilles. Donc on participe à ces essais-là, mais ce n'est pas nous qui pouvons les initier. Ah, ça va. Alors, ce qui se passe très souvent en transplantation, c'est vu l'importance des corps de transplanté rénaux, ça commence par le rein. Et comme toujours, ça est étendu derrière, au foie, au poumon, au cœur, bien sûr. Les mécanismes immunologiques sont très souvent communs.
continuer avec Nathalie Chargé, qui, certains d'entre vous la connaissent, infirmière coordinatrice dans le service, et qui va donc nous parler de ce qui s'est dit au congrès en marge, mais dans la session paramédicale.
Donc, bonjour. Donc, moi, je suis donc coordinatrice, comme Antoine vient de dire. Donc, en fait, lors du congrès donc, de la Société francophone de transplantation, maintenant depuis plusieurs années, on a une journée réservée aux paramédicaux et organisée par les paramédicaux, enfin pour les paramédicaux, la coordination des prélèvements d'organes et la transplantation en général. Donc, ce qui nous permet en effet de pouvoir échanger et de nous connaître mieux, puisque du prélèvement à la greffe, c'est une chaîne humaine. Et on ne sait pas toujours les uns et les autres nos problématiques, et ça nous permet en effet d'échanger, et c'est des journées souvent très intéressantes. Donc, cette année, il y a eu plusieurs sujets, et entre autres un échange avec une collègue belge, coordinatrice en prélèvement d'organes, donc à Bruxelles, qui nous a fait une présentation sur des prélèvements d'organes qui avaient été réalisés chez des nouveau-nés entre 26 semaines et 6 jours. Alors, c'est des prélèvements de tissus, hein, essentiellement, c'est les valves cardiaques, c'est de la peau et c'est des hépatocytes. Voilà. Donc, c'était assez prenant et émouvant. Voilà. On a une analyse aussi d'une ethno-anthropologue qui est Zoé Cohen-Solal, qui est a participé à une grande enquête qui s'appelle le groupe Famerea, qui a été réalisée auprès des réanimations des soignants, des familles, et donc entre autres aussi dans le don d'organes. Et en fait, elle a fait une analyse en fait, par une enquête téléphonique à distance de ses proches qui ont été dans le processus d'accord, enfin, ou de consentement par rapport au don d'organes, ou pas d'ailleurs, puisque en effet il y avait aussi dans ces pères proches-là des proches qui avaient donné une opposition au don d'organes. Donc c'était aussi intéressant. Donc ça s'appelle Famerea. Donc si vous avez l'occasion de voir ces enquêtes, c'est intéressant. Et on a eu l'intervention du professeur René Robert, qui est donc chef du service de réanimation médicale au CHU de Poitiers, et qui participe beaucoup des groupes éthiques, et qui nous a fait une petite analyse sur la loi de Leonetti, Claes-Leonetti 2016, pour voir un petit peu ce qu'a changé depuis le nouveau décret sur la recherche de consentement pour le prélèvement d'organes. Sa conclusion finale, c'était plutôt de dire qu'il y a peut-être un petit peu moins de refus, mais surtout aussi de bien préparer les proches à ces situations-là, et que la meilleure des choses, c'est de faire des directives anticipées, d'écrire ces directives anticipées et les faire connaître. On a eu donc une présentation aussi par l'Agence de la biomédecine sur la façon de standardiser, d'améliorer la traçabilité des greffons, de transport des greffons, et parce qu'en effet, il y a un tas de normes particulières qui, pour certains greffons, ne permettent pas certains transports, entre autres en avion. Et donc, il y a un travail de l'Agence de la biomédecine pour uniformiser tout ça. Et comme on a dit tout à l'heure, donc on a Laurent Boursier, qui est un de nos coordinateurs de prélèvement sur le CHU de Poitiers, qui nous a relaté des analyses sur l'utilisation des machines à perfuser donc, sur le réseau Poitou-Charentes. Et donc, comme on disait tout à l'heure, en effet, on a 100% de nos greffons prélevés dans le Poitou-Charentes qui sont mis sur machines à perfuser. Donc, ce qui, comme disait le professeur Barou, quand même, et Dr Thierry Ouet, que ça améliore largement la qualité de nos greffons et donc aussi la reprise de fonction chez nos patients transplantés. On a eu un petit peu de choses sur la greffe aussi. Donc, entre autres, un petit rappel, puisque c'était sur les vaccins, et donc ça fait du mal à personne de savoir que finalement, il faut penser à bien protéger nos patients en pré-transplantation et en post-transplantation sur les vaccinations, qui malheureusement, actuellement, n'a pas une couverture vaccinale suffisante. Et puis, une intervention du professeur Saint-Marcoux, qui est donc pharmacologue au CHU de Limoges, sur l'analyse, enfin sur la variabilité des traitements immunosuppresseurs chez nos patients transplantés, pour éviter peut-être de culpabiliser un peu trop des fois nos patients aussi, et nous montrer que ben, finalement, voilà, il y a peut-être des fois de la mauvaise observance chez nos patients, mais ce n'est pas que ça, et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs de variabilité dans la prise des, enfin, dans l'absorption des immunosuppresseurs, et que c'est important de bien suivre nos patients et de bien doser leurs médicaments. Et alors, surtout, ce que je voulais vous présenter, c'est donc un projet qui va démarrer, où en fait les établissements qui ont une activité de prélèvement et ou de greffe, bien sûr, en SCHU, eh bien, il y a un concours qui est lancé grâce aussi à la SFT et validé par l'Agence de biomédecine sur la création d'un lieu de mémoire dans les établissements pour permettre en effet d'avoir ce lieu qui va permettre aux proches, soit des donneurs, soit des greffés eux-mêmes, d'avoir un lieu qui va rendre hommage à nos donneurs. Donc ça, le concours va démarrer là, on va recevoir les présentations, enfin les inscriptions, les gens qui vont vouloir participer, et en fait l'objectif c'est de faire une diapositive et de présenter son projet à la SFT donc en décembre 2018 à Toulouse, en 3 minutes, 180 secondes, c'est pour ça, c'est pour présenter le projet en 180 secondes, avec à l'appui juste une seule diapositive, et donc avec un jury qui va sélectionner les meilleures présentations. Donc il y aura, les trois premiers sont récompensés, et il y aura un quatrième prix qui sera décerné par le public qui sera présent donc sur le congrès de Toulouse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci.
Question pour Nathalie ? Ça, si on savait le faire, ce serait bien. Non, pour nous, ça nous paraît très important que les coordinatrices se connaissent entre elles au niveau national, échangent leurs difficultés, ce qui marche, ce qui ne marche pas dans les différents centres. Et vous savez bien que sans coordinatrice, il n'y a pas de transplantation. Hein. Enfin, il y en a, mais pas aussi bien. Vraiment pas aussi bien. Et que c'est des pièces essentielles du dispositif. Voilà. Alors, je vais changer. Donc me revient la tâche de terminer cette soirée. Ça, c'était l'affiche donc du congrès de La Rochelle, la belle affiche de ce 17e congrès de la société francophone. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc un tout petit peu quand même de pub. Quand on décerne le lieu du congrès à une ville et à une équipe, c'est que, indirectement, c'est une forme de reconnaissance pour l'équipe locale qui accueille le congrès. Et si Poitiers a accueilli ce 17e congrès, c'est une forme de reconnaissance de la part de la communauté sur la qualité de notre travail. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu. Alors, c'était fait à La Rochelle pour des raisons d'accueil optimal qui n'était pas évident sur Poitiers, mais c'était bien les équipes du CHU de Poitiers qui organisaient ce congrès. Vous rappelez quand même que la greffe à Poitiers, ça existe depuis 1986, mars 86, et qu'on a fait aujourd'hui la 1300e greffe dans le service et qu'on suit un peu plus de 1000 patients dans le service. Depuis le début de l'année, on a réalisé 83 transplantations et c'est la meilleure année jamais réalisée à Poitiers en termes de nombre de greffes par an. Voilà. Poitiers a une caractéristique, c'est qu'elle est, notre CHU était aussi équipé, donc enfin équipé est associé à notre CHU une équipe INSERM dirigée par Thierry Wett, dont on a parlé tout à l'heure, et ça renforce aussi notre légitimité, j'allais dire, dans le domaine de la transplantation. Alors, au cours du congrès de la Société francophone de transplantation, il y a une tradition qui est d'inviter une société savante amie qui chaque année change. Et cette année, j'avais proposé qu'on invite la Société française de gérontologie et de gériatrie, ce qui a été accepté parce que de plus en plus, on est amené soit à greffer des receveurs âgés, soit on est amené à prendre en charge nos patients transplantés qui deviennent âgés, qui deviennent des patients gériatriques également, et qu'on a besoin certainement de nos collègues et amis gériatres pour prendre en charge correctement ces patients. Et donc Marc Pacalin, qui est responsable à Poitiers du service de gériatrie, est venu nous parler du patient âgé transplanté face au défi du vieillissement. Et c'est quelques-unes de ces diapos et de ces messages clés que je voulais vous montrer ce soir, rapidement. Rappelez tout d'abord qu'au niveau démographique, en janvier 2016, on était un peu plus de 66 millions, que des plus de 90 ans, il y en avait environ 750 000, et que les plus de 75 ans représentaient environ, vous le voyez, 5,3% de la population. L'espérance de vie en 2015, c'était lorsque vous atteignez l'âge de 60 ans. Quand vous atteignez l'âge de 60 ans, vous voyez que vous avez une espérance de vie de 22,9 ans quand vous êtes un homme et de 27,3 ans quand vous êtes une femme. Et à 75 ans, vous avez encore une espérance de vie de plus de 11 ans quand vous êtes un homme et de plus de 14 ans lorsque vous êtes une femme. Et donc, pendant cette séquence de vie-là, peut arriver le besoin, suite à une insuffisance rénale chronique terminale, peut se poser la question du recours à la dialyse et ou à la transplantation. On va le voir, quand on regarde les chiffres français, ça c'est en France, vous avez ici par tranche d'âge le nombre de patients pris en charge soit en dialyse, soit en transplantation. Et vous voyez que, eh bien, en 2014, mais la tendance est toujours aussi vraie, vous aviez plus de 40% des patients qui avaient en dialyse ou en transplantation, ou pris en charge en dialyse ou pris en charge en transplantation, plus de 40% des patients qui avaient plus de 75 ans. De la même manière, le grand âge qu'on pourrait définir par les patients de plus de 85 ans, et bien vous voyez cette frange de plus de 85 ans en dialyse augmente également. Donc pourquoi s'y intéresser ? C'est pour des raisons donc démographiques, parce qu'encore une fois, les patients âgés en dialyse et en transplantation, cette cohorte de patients augmente. Or, et pour répondre à ce défi-là, la Haute Autorité de Santé nous intime et nous donne comme message que après accord du patient, il faut débuter un bilan pré-transplantation et orienter vers une équipe de transplantation tout patient de moins de 85 ans avec une maladie rénale chronique irréversible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez moins de 85 ans, si vous avez une insuffisance rénale chronique terminale ou pré-terminale, vous devez être évalué, ça ne veut pas dire greffé, parce qu'il y a des patients que l'on récuse, qui ne sont pas greffables, on va en reparler tout à l'heure, mais vous devez au moins bénéficier d'une évaluation dans un centre de transplantation pour voir si la greffe est envisageable. Et donc ça génère pour nous, pour les équipes de transplantation, un travail important parce qu'on voit un certain nombre de patients en consultation pré-transplantation que nos collègues, que mon maître Guy Touchard ne voyait pas. Alors on peut penser que les sujets âgés, les candidats à la transplantation âgés sont des patients insuffisants rénaux chroniques très bien suivis, très sélectionnés, qui bénéficient d'un parcours très, très particulier et que ben, on n'a pas besoin, pour ces patients-là qu'on connaît très bien, parfois depuis longtemps, on n'a pas du tout besoin d'avis gériatrique. Or, parfois, la greffe, pour ces patients-là, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que, certes, on les a tirés d'une mauvaise situation, c'est-à-dire le sujet âgé en dialyse, qui est aussi parfois très difficile à vivre au quotidien, et cette attente de greffe. Et donc, on les greffe, OK, mais parfois, hop, on ne règle pas le problème, et on règle un problème qui est celui de la dialyse, et on crée d'autres problèmes avec la greffe. Et donc, c'est là tout l'enjeu d'éviter finalement cette séquence. Certes, les sortir de la dialyse, mais pas les renvoyer vers une autre situation, d'autres complications associées à la transplantation qui seraient dommageables pour leur qualité de vie et leur espérance de vie. Et ce qui est compliqué et en même temps intéressant, c'est que la population âgée, finalement, c'est une population très hétérogène et que vous pouvez avoir 78-80 ans et vous pouvez être très alerte comme cette dame et vous pouvez aussi être quasi grabataire. Donc, pour qui va bénéficier de la transplantation dans cette population âgée hétérogène ? Eh bien, encore une fois, il y a des patients qu'on va mettre sur la liste d'attente sans état d'âme, j'allais dire, qu'on va en tout cas diriger vers la transplantation aujourd'hui. Il y a des patients que l'on va récuser pour la transplantation, mais on va les prendre en charge en dialyse parce qu'on pense que c'est leur apporter un bénéfice en termes de qualité de vie et surtout d'espérance de vie dans la prise en charge de leur insuffisance rénale chronique terminale. Et puis, il y a des patients dont on pense que la dialyse ne va pas leur apporter de bénéfices et ils sont également récusés pour la dialyse. Donc, vous voyez que pour un âge donné, la population peut être très hétérogène et l'offre de soins, en tout cas les stratégies de traitement de cette insuffisance rénale chronique terminale, peuvent être très différentes. Alors, Marc Macalin, le gériatre, nous a rappelé quand même ce que c'était que vieillir, et cette définition, je trouve, est assez juste. Le vieillissement, c'est la transformation progressive de l'adulte en un individu vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est la diminution des réserves physiologiques et la difficulté pour une réponse adaptée aux situations de stress. Et finalement, avec ces éléments-là, vous avez ce que, encore une fois, je pense une définition, une bonne définition de ce qu'est vieillir et de la notion de fragilité associée au vieillissement. Alors, les conséquences pour la collectivité du vieillissement, il nous a rappelé au cours du congrès le coût énorme pour notre société, notre collectivité, du vieillissement et surtout de la dépendance. Et aujourd'hui, tout cumulé, ça représente environ un effort conséquent pour la nation de l'ordre de 25 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a l'allocation, la PASS et l'allocation personnalisée autonomie dont plus d'un million et un million deux de Français bénéficient, avec, vous voyez ici, la répartition en fonction de l'âge. Mais les prévisions modélisent qu'en 2060, on sera plus de 2 millions à avoir recours à ce financement, avoir recours à cette allocation, et donc se posent des questions en termes d'économie sur non seulement le coût de la dépendance, mais surtout l'évolution de ce coût de la dépendance qui ira croissant. Alors, ce qu'il nous faut pour greffer les patients, il nous faut, avant la greffe, on revient à la greffe du sujet âgé, et donc ce qu'il nous faut, c'est bien connaître finalement le profil des patients, ceux qui vont bénéficier de la greffe, ceux qui vont être améliorés par la greffe. Sur ce petit schéma, clairement, c'est les deux premiers patients qui potentiellement peuvent bénéficier de la transplantation parce que cela, on risquerait d'aggraver certainement les choses. Donc, vieillir, c'est devenir un peu plus vulnérable. On a une réserve physiologique et que le sujet âgé qui vieillit bien, qui est robuste, finalement, il épuise sa réserve de manière relativement régulière, relativement lente, jusqu'à un seuil qu'on pourrait définir comme le seuil d'insuffisance qui pourrait se traduire par la perte d'autonomie. Et encore une fois, quand on vieillit bien, on perd certes, on diminue ses réserves au cours du temps, mais c'est relativement progressif et une bonne prise en charge médicale, une bonne prise en charge gériatrique, ça revient finalement à tenter de maintenir le plus longtemps possible ses réserves et de prévenir les éventuels accidents qui pourraient survenir. Et malheureusement, au cours de la vie, eh bien, la pente n'est pas toujours aussi lente et régulière. Il y a parfois des accidents de la vie, des accidents de santé, où vous perdez à chaque fois un peu de réserve. Vous allez par exemple faire un infarctus du myocarde, vous allez perdre un peu de réserve. Vous allez être hospitalisé, vous allez moins bien manger, vous allez avoir vous perdez de la réserve. Vous allez avoir un accident, une fracture du col du fémur, vous perdez à nouveau de la réserve. Vous allez avoir la perte d'un conjoint, vous allez avoir des accidents de la vie, vous perdez à chaque fois de la réserve. Et donc, ces accidents de la vie, médicaux ou non, altèrent encore une fois cette capacité et vous font quelque part vieillir plus vite, finalement. Or, l'insuffisance rénale chronique, c'est également un facteur de risque qui altère ses réserves. Déjà, il faut savoir que chez le patient dialysé, l'activité physique est diminuée. Ça, ça paraît évident, mais les capacités physiques sont diminuées chez le patient dialysé. De même, chez le patient chez le patient insuffisant rénal chronique, il y a une perte d'autonomie et un déclin cognitif, c'est-à-dire que les capacités intellectuelles sont altérées chez le patient insuffisant rénal chronique par rapport à la population générale. On a encore une fois une perte d'autonomie, un déclin cognitif plus important. Donc les patients insuffisants rénaux chroniques âgés sont particulièrement vulnérables. Et finalement, la question, c'est chez ces patients insuffisants rénaux chroniques qui, quelque part, ont une réserve qui diminue plus vite parce qu'ils sont insuffisants rénaux chroniques, eh bien, quel va être le bénéfice de la greffe? Est-ce qu'on va apporter quelque chose ici? Autrement dit, est-ce que la greffe, ça va aggraver les choses et ça va précipiter les choses vers la perte d'autonomie ou au contraire, améliorer, stabiliser une situation? Donc là encore, se repose la question de quel patient âgé va vraiment bénéficier de la transplantation? Parce que techniquement, les chirurgiens sont très très forts. Vous avez vu, tout à l'heure, ils nous ont montré, ils savent quasiment tout faire. Mais une fois qu'on a greffé le patient, que l'acte technique est réalisé, encore faut-il avoir apporté pour le post-greffe immédiat, mais pour les mois et les années qui restent à vivre, avoir apporté un réel bénéfice. Donc quel profil de patient va vraiment bénéficier d'une transplantation? Ce n'est pas toujours évident. Or, pourtant, on sait que au niveau statistique, quand on compare les patients âgés, quand on les compare aux patients en attente de greffe, si vous prenez la tranche des 70-74 ans inscrits sur la liste d'attente, eh bien leur survie, elle est quand même nettement moins bonne en attente de greffe que lorsqu'ils ont le même âge et qu'ils sont greffés. Par exemple, la survie à 5 ans, elle est nettement meilleure quand vous êtes transplanté que quand vous êtes en dialyse sur la liste d'attente. Donc globalement, ça suggère quand même que la greffe garde un intérêt en termes de survie patient, d'espérance de vie, y compris chez le sujet âgé par rapport au sujet en dialyse, au patient en dialyse. Donc la greffe, la bonne greffe, c'est celle-ci. C'est certes, vous êtes insuffisant rénal chronique, donc vous avez une perte, vous vieillissez quelque part plus vite ou moins bien à cause de votre insuffisance rénale chronique. La greffe va vous améliorer cette insuffisance rénale chronique, vous allez retrouver de l'autonomie et donc finalement ça va améliorer la situation, d'accord ? Donc la greffe apporte vraiment quelque chose en termes d'espérance de vie, mais également en termes de qualité de vie. Ça, c'est la bonne greffe du sujet âgé. Mais le risque, et c'est là où on doit être nous vigilants, c'est la mauvaise greffe. Ce serait que la greffe, parce que c'est une opération, parce qu'il peut y avoir des complications infectieuses, notamment, il peut y avoir des problèmes de rejet qui nécessitent des traitements qui sont parfois mal tolérés, eh bien la greffe pourrait, dans certains cas chez le sujet âgé, au contraire, précipiter les choses vers la perte d'autonomie. Et encore une fois, tout l'enjeu est là, c'est de, quelque part, mettre toutes les chances du côté du patient pour identifier bien le patient qui va bénéficier de la transplantation. Un petit mot sur l'environnement. Faire la greffe, c'est techniquement possible. chez beaucoup, beaucoup de monde. Mais après, il y a le retour à domicile. Et quand on est âgé, eh bien, il y a un environnement particulier. Comment est le conjoint ? Parfois, les greffés rentrent chez eux et ils retrouvent un conjoint qui est encore plus malade qu'eux. Et donc, vous imaginez bien que ça crée des situations difficiles. Parfois, il n'y a pas de conjoint du tout parce qu'on est veuf ou veuve. Et donc, ça complique également la situation. Donc, quel est le duo, finalement, après la greffe ? Dans quelles conditions rentre le patient âgé greffé ? Eh bien, ça aussi, c'est très important pour le succès et l'efficacité de la transplantation. Et puis, une réflexion plus globale, c'est sur l'état de notre médecine générale en France, notamment dans les campagnes, et même pas très très loin d'ici. Et cette population âgée transplantée, elle va avoir besoin de soins réguliers, importants. Nous, les équipes de transplantation, on ne va pas pouvoir être les généralistes de tout le monde. Et vous le savez bien, pour ceux qui sont transplantés dans la salle, que les salles d'attente le matin sont pleines et qu'on ne peut plus faire de la médecine générale comme on le faisait peut-être au début de la greffe. Et donc on a besoin de généralistes, mais aujourd'hui qui va prendre en charge ces patients? En tout cas c'est parfois compliqué en fonction de là où on habite et des problèmes d'inégalité d'accès aux soins dans les territoires. Donc les messages, c'est de dire que on veut faire une médecine centrée sur le patient. Il faut une très bonne évaluation technique. Technique, c'est l'évaluation du cœur, l'évaluation des vaisseaux, les scanners, etc. Ça, c'est du technique. Mais il y a aussi, pour les patients âgés, il y a une évaluation multidimensionnelle qui est extrêmement importante. L'évaluation multidimensionnelle, c'est être capable d'évaluer son autonomie, d'être capable d'évaluer son niveau, s'il n'a pas de maladie d'Alzheimer débutante, par exemple, ses capacités intellectuelles, son état nutritionnel, si on est dénutri, si on est mal nourri, etc., on est plus fragile et ça va moins bien se passer. Si on n'a pas de problème d'audition, de vision, si vous ne voyez pas parfaitement bien, quand vous coupez vos petits médicaments anti-rejet, ça peut poser problème. Les problèmes de marge, de fonctionnalité, lorsque vous ne marchez pas, que vous êtes dénutri et que vous avez de l'ostéoporose, on va vous rajouter des corticoïdes, ça ne va pas bien se passer. Les comorbidités, les maladies que vous avez à côté, quel milieu social, quel environnement, et tout ça doit être pris en charge, bien entendu, et en tout cas évalué, tant en pré-greffe, quand vous vous posez la question de la transplantation chez un patient, qu'en post-greffe, c'est-à-dire quand vous voyez à la consultation un sujet âgé. Et donc, ça nous demande du temps, du travail, et c'est du boulot, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier. Et je terminerai par une phrase de Jean d'Ormesson, que je trouve très adaptée à la transplantation. C'est Marc Pacquelin qui a trouvé cette phrase, puisqu'il a fait son topo quelques jours après son décès. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Pour résumer l'appel de greffe, vous êtes deux au moins dans cette salle à avoir vécu un appel de greffe, c'est, je trouve, assez bien vu. Voilà, merci. Et puis on peut discuter. Bon, pas de questions ? Madame Delannoy ? Je suis très déçu. Comme d'habitude. Sur le sujet âgé, quand même, faut se rendre compte. Hein. Il y a encore 10-15 ans, on n'imaginait pas greffer des gens de plus de 70 ans. Aujourd'hui, c'est assez monnaie courante. Hein. Alors voilà, c'est pour ça que ça mérite d'être dit et d'être... voilà. C'est qu'on peut bénéficier de la greffe, y compris quand on est très âgé. Pas très âgé, quand on a plus de 70-75 ans. Bien, et pour vous remercier de votre patience, eh bien, un petit verre de l'amitié vous est proposé, je crois, à l'étage et qu'on pourra partager avec vous avec grand plaisir. Mais avant, il y a une heure sur la chiralité.